Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Beaucoup de prédicateurs enseignent que le Christ ne pouvait pas pécher, qu'il avait gardé sa divinité. Ils avancent un passage de l'évangile de Matthieu pour le prouver. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ». Le Christ, qui était Dieu de toute éternité, s'est dépouillé complètement de sa divinité afin de mourir pour l'humanité. Il n'était pas Dieu à l'intérieur d'un corps charnel, non, il fut incarné au point de devenir chair et sang. C'est ce que nous avons vu au cours des deux émissions précédentes. Le Messie a été fait chair. Il est devenu un simple homme, un être humain sujet à la mort. Il est mort et il est resté dans le tombeau pendant 3 jours et 3 nuits comme il l'avait annoncé. S'il n'y avait pas eu d'autres personnes au sein de la famille divine, alors le dispensateur de toute vie serait resté mort. Toute espérance aurait été détruite. Mais alors que le Christ était un cadavre, le Père au ciel avait la vie inhérente en lui. La vie ne peut venir que de la vie. Jésus était mort. Sa vie l'avait quittée. Elle s'était écoulée par le coup de lance du soldat romain. Christ avait littéralement donné sa vie, son sang pour tous. Mais comme le Père a la vie en lui, Dieu le Père a donc ressuscité Jésus d'entre les morts. Pour résister à la tentation, Jésus eut besoin du Saint-Esprit, de cette force, de cette puissance qui émane de son Père. C'est ainsi qu'il résista aux tentations de Satan. Celui-ci croyait que le Christ pouvait faire le mauvais choix, mais notre Sauveur a toujours fait le bon choix. Il n'a jamais permis à la tentation de s'ancrer dans son esprit. Il n'a donc jamais transgressé la loi, bien qu'il possédât une nature humaine semblable à la nôtre. Paul écrit au sujet du Christ, « C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. » Comprenez bien la signification de ces versets. De quelle mort s'agit-il? De quelle mort le Christ voulait-il être sauvé, exempté? Il n'est nullement question de la mort physique qui attend tout être humain, puisque l'apôtre Paul a écrit « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption, qui est ce qui attend tout corps physique, n'hérite pas l'incorruptibilité. D'ailleurs, si le Christ voulait retrouver un corps spirituel, il fallait que son corps physique meure, puisque la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Certains veulent faire croire que seul le corps du Christ était mort, mais que lui, Jésus, n'est jamais mort, puisque, disent-ils, un Dieu ne peut mourir. Si le Christ n'est pas mort pour nos péchés, dans ce cas, nous n'avons pas de sauveur, et tous nous sommes perdus. Mais la parole a été faite chair. En abandonnant sa divinité, et ceci est très important à retenir, il a été transformé, converti, changé en chair, comme tout autre être humain. Il était Dieu, mais un Dieu qui n'était plus composé que de chair et de sang, et non un esprit immortel dans un corps de chair et de sang. Le Père régnait au ciel, et il a ressuscité Jésus des morts et non des vivants. Le corps ressuscité n'était plus physique, humain. C'était le Christ ressuscité avec un corps immortel, changé une fois de plus. Le Christ, qui était un être spirituel, avait été changé en un être physique. Et maintenant, par sa résurrection, son corps physique était à nouveau changé en un corps spirituel, immortel. Depuis lors, il est vivant à jamais. Au moment où le Christ adresse à son Père des prières et des supplications pour être sauvé ou préservé de la mort, il est à ce moment-là composé de chair et de sang, de ce qu'il y a de plus physique. Par conséquent, la mort dont il souhaite être sauvé, protégé, exempté, n'est pas la mort que doit connaître tout homme, mais la mort éternelle, la mort définitive. D'ailleurs, Jésus avait reçu un ordre de son Père. Il n'était donc pas question de revenir sur ce sujet. L'ordre dont il est question ici, le voici selon la déclaration qu'il a faite. Le Père m'aime, parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Le Christ avait donc tout pouvoir pour décider s'il irait jusqu'à mourir physiquement pour l'humanité. C'était son choix, un choix dans lequel le Père ne voulait pas intervenir. Il n'y avait donc aucune raison de présenter à son Père des prières et des supplications pour que la mort physique lui soit épargnée. Tout ce qu'il craignait était de transgresser la loi et de subir l'amende, le salaire de cette transgression qui est la mort éternelle. Pour cela, le Père pouvait l'aider, lui donner la force de son Saint-Esprit, afin qu'il continue à faire le bon choix, à surmonter sa propre nature humaine et les sollicitations naturelles de la chair. L'apôtre Paul rapporte qu'à la suite de ses prières et de ses supplications, le Christ a été exaucé à cause de sa piété, à cause de sa crainte, du désir qu'il avait d'y arriver, de vaincre jusqu'au bout. Et il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Certaines traductions disent « Tout fils qu'il était, apprit de ce qu'il souffrit, l'obéissance. » Quelle obéissance ? À la loi, pour éviter de la transgresser et de se retrouver sous le salaire du péché qui est la mort éternelle. La Bible en français courant traduit comme suit. Bien qu'il fût le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par tout ce qu'il a souffert. Comment pouvait-il apprendre l'obéissance? En faisant toujours le bon choix, en résistant à la tentation. Résister à la tentation, c'est un test, c'est une lutte contre soi-même, c'est une souffrance, une épreuve que l'on peut surmonter avec l'aide de Dieu. Et le Christ a vaincu. Il a été jusqu'au bout de la perfection, comme le déclare l'apôtre Paul. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Cela signifie qu'il est allé jusqu'au bout dans la perfection, du grec teleiou. Puisqu'il n'y a que deux membres, deux personnages dans la famille divine, si le Christ avait péché, s'il avait transgressé la loi, ne serait-ce qu'une seule fois, il aurait eu besoin à son tour d'un sauveur. Mais il n'existait personne pour payer l'amende du ou des péchés qu'il aurait pu commettre. Il ne restait plus aux cieux que le Très-Haut, qui ne pouvait pas abandonner sa divinité, car si cela avait été, plus personne n'aurait été là pour soutenir toute chose, c'est-à-dire toutes les lois de la vie, sans oublier celle de l'univers entier. En effet, l'apôtre Paul déclare au sujet du Christ, « Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. » Paul déclare dans son Épître aux Hébreux, « Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toute chose, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose par sa parole puissante. » Comprenez donc que si le Très-Haut, celui qui était devenu le Père, devait abandonner à son tour sa divinité, il n'y aurait plus eu de Dieu pour soutenir toute chose. La vie sur cette terre aurait disparu et l'univers entier aurait basculé dans le chaos le plus complet. Si le Christ avait transgressé la loi, il aurait été perdu pour toute l'éternité et nous n'aurions pas de sauveur, nous serions perdus nous-mêmes à jamais. Ceux qui veulent faire croire que le Christ ne pouvait pas pécher, qu'il était dans l'incapacité de transgresser la loi, oublient le verset suivant. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Le Christ a eu besoin de l'aide de son Père pour vaincre la tentation, le monde et sa nature humaine. Il a obtenu cette aide, et celle-ci est aussi à la disposition de quiconque veut vivre en se conformant à la volonté de Dieu. De plus, nous avons un grand sacrificateur, Jésus, qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour tous ceux qui veulent se soumettre à la volonté de Dieu. Alors qu'il était sur terre, le Christ savait à quel point il dépendait de son Père pour vaincre. Il déclara « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il a encore déclaré « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. » Et il ajouta « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, quand vous l'aurez crucifié, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Le Christ, qui avait abandonné sa divinité, savait qu'il dépendait entièrement de son Père pour vaincre, et il y est parvenu, car la puissance de Dieu était en lui, tout comme elle peut être dans le véritable chrétien, qui est celui qui se soumet entièrement à Dieu, en implorant son aide, sa force, sa puissance, afin de résister au péché pour faire sa volonté. L'Écriture nous informe que le Christ est allé jusqu'au bout, jusqu'à la victoire finale, après s'être dépouillé de tout ce qui était à lui, tout ça pour l'humanité. Ne perdons pas de vue ce que David avait prophétisé à son sujet. « Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. » Personne ne peut douter que cette prophétie se rapporte bien à notre Sauveur. Le prophète Ésaïe nous fait comprendre un autre aspect du sacrifice du Christ. Il écrit au sujet des souffrances qui furent les siennes, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ésaïe donna des détails poignants de ses souffrances. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. Ceci, après le supplice qui suivit son arrestation. Nous constatons que le Christ a payé non seulement l'amende de nos péchés, mais en plus, il a porté nos souffrances. Dans la prière qu'il adresse à son Père, peu de temps avant son arrestation, il déclare « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Le Christ a supporté tout cela par amour, par miséricorde. Dieu aime l'homme, mais il ne peut supporter le péché. Il joue un rôle actif dans notre vie. La mort et la résurrection du Fils de Dieu sont les événements les plus importants dans l'histoire de l'humanité. Le Christ révèle « J'ai vaincu ». S'il a vaincu, c'est qu'il pouvait pécher, sans plus pouvoir récupérer sa vie éternelle qu'il avait volontairement abandonnée. N'oublions jamais cela.